France Inter, il est 13h. Le journal Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour. Un génocidaire rwandais arrêté près de Paris, l'homme d'affaires Félicien Kabuga, accusé d'avoir été le financier du génocide de 94 dans son pays, était en cavale depuis plus de 25 ans. Il vivait sous une fausse identité à Asnières-sur-Seine. Fariba Adelkha, condamnée à 6 ans de prison en Iran, la chercheuse franco-iranienne accusée d'atteinte à la sécurité nationale avait été arrêtée en juin 2019 en compagnie d'un autre chercheur français, Roland Marchal, qui lui a été libéré en mars dernier. À la plage, en montagne, en forêt, les activités ou balades en plein air reprennent ce week-end, premier week-end de déconfinement, à certaines conditions, bien entendu. En Allemagne, c'est le championnat de foot qui reprend sans public et sous conditions, là aussi, une reprise qui sera scruté très attentivement par tous les voisins. Dans ce journal également, l'Italie qui rouvre ses frontières le 3 juin. Air France qui se dit d'accord pour rembourser les vols annulés, mais pas tout de suite. Le rendez-vous du Livre Inter, tous les samedis du mois de mai, rencontre avec l'un des auteurs en lice. Aujourd'hui, Constance Debré pour Love Me Tender, paru chez Flammarion. Et puis un temps largement ensoleillé sur les deux tiers nord du pays, nous dira Jean-Michel Golinski.
France Inter.
Il est l'un des principaux accusés du génocide au Rwanda, dont il est suspecté d'avoir été le financier en cavale depuis plus de 25 ans. L'homme d'affaires rwandais, Félicien Kabuga, a donc été arrêté ce matin près de Paris, Sophie Parmentier.
Oui, Félicien Kabuga a été arrêté à 6h30 ce matin dans un appartement d'Asnières-sur-Seine où il vivait sous une fausse identité grâce à la complicité de ses enfants. Ce sont les gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité qui ont réussi cette interpellation en lien avec le parquet général de Paris, une énorme opération judiciaire qui aboutit à la fin de cavale d'un des plus sanglants génocidaires rwandais. Félicien Kabuga, qui est aujourd'hui âgé de 84 ans, est accusé d'avoir créé les milices Interahamwe, ces milices qui ont massacré au moins 800 000 Tutsis, des Hutus modérés en 1994 au Rwanda. Kabuga est aussi accusé d'avoir créé la radio Mille Collines, tristement célèbre, celle qui a appelé à tous les massacres. Enfin, il est accusé, vous l'avez dit, d'avoir financé ce génocide. Félicien Kabuga était donc recherché depuis plus d'un quart de siècle par les polices du monde entier. On l'a traqué en Allemagne, en Belgique, au Congo Kinshasa, au Kenya, en Suisse, et les États-Unis avaient promis une prime de 5 millions de dollars pour sa capture. Finalement arrêté par des gendarmes français très fiers qui ont fini par le cerner ces dernières semaines grâce à la téléphonie notamment. Félicien Kabuga va maintenant être présenté dans les prochaines heures à des magistrats parisiens en vue de son incarcération provisoire, puis la justice française devrait le remettre à l'ex-tribunal pénal international, rebaptisé Mécanisme, car c'est lui qui avait émis en premier un mandat d'arrêt international.
Sophie Parmentier, l'arrestation de ce matin rappelle que tous les génocidaires devront rendre des comptes un jour ou l'autre, souligne un procureur de l'ONU. Deux autres Rwandais sont toujours recherchés par la justice internationale. 6 ans de prison pour Fariba Adelkha, l'anthropologue franco-iranienne, directrice de recherche à Sciences Po Paris, emprisonnée déjà depuis bientôt un an, au mois de juin, pour atteinte à la sécurité nationale. Elle avait été arrêtée en même temps qu'un autre chercheur français, son compagnon Roland Marchal, qui lui a été libéré en mars dernier. Mais l'Iran ne reconnaît pas sa double nationalité, Christian Chéneau.
Le tribunal révolutionnaire de Téhéran a eu la main lourde. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkha écope de la peine maximale pour ce type d'accusation, soit 5 ans pour collusion en vue d'attenter à la sécurité nationale et 1 an pour propagande contre la République islamique. Une parodie de justice a réagi après le verdict Jean-François Bayard, universitaire et coordinateur du comité de soutien à Fariba Adelkha.
C'est du pipeau, sauf à considérer que l'anthropologie nuit à la sécurité nationale de quelque pays que ce soit. Sur le plan strictement juridique, cette affaire n'a aucun sens et les conditions même du procès, avec énormément de guillemets, sont absolument hors normes du point de vue du droit international. Donc il ne s'agit naturellement pas d'une décision judiciaire, mais d'une décision politique.
L'avocat de la chercheuse franco-iranienne a fait savoir qu'il faisait appel du verdict, une condamnation qui ouvre sans doute aussi la voie à des discussions en coulisses entre Téhéran et Paris pour trouver une issue positive à cette affaire qui empoisonne les relations franco-iraniennes.
Des dizaines d'Iraniens possédant une double nationalité ont été arrêtés ces dernières années par les gardiens de la Révolution pour les mêmes motifs, atteinte à la sûreté nationale. Premier week-end de déconfinement après 7 semaines de restrictions. On peut à nouveau profiter des plages, des forêts, des sentiers de randonnée, en gardant ses distances bien entendu. Sur les plages, pas question de s'asseoir et encore moins de s'allonger. Pas question de se balader en groupe à plus de 10 personnes. À Paris, où les parcs et jardins restent fermés, les bois de Boulogne et de Vincennes ont rouvert. Reportage à Vincennes, Faustine Calmel.
10h, Julien gare sa voiture, sort du coffre vélo et ballon, direction le lac Daumesnil.
Là aujourd'hui, ce qu'on est venu chercher, c'est voir des canards, des animaux pour notre fille de 2 ans et demi. On s'est dit qu'on allait profiter du beau temps avant qu'il y ait trop de monde, je vois qu'on n'est pas les seuls.
Sur le lac, les barques ont repris du service, les pêcheurs au bord le disputent à ceux qui s'installent pour pique-niquer, comme David, Flora et leur fils de 10 mois venus.
En vélo, on en profite, on a pris le petit... sur le vélo, et puis ça nous a fait faire une petite balade comme ça. Toucher l'herbe, toucher la nature, voir de l'eau. On se reconnecte un peu avec la nature parisienne.
Sur les chemins, il faut faire sa place. Entre les adeptes de la marche nordique, les joggeurs, enfin libérés comme Noah.
Ça fait du bien. Il y a du monde, mais ça fait du bien quand même. Ça change. Même la course est mieux. On court plus longtemps. Je cours mieux qu'avant parce qu'au bout d'un moment, quand tu cours sur un kilomètre, tu t'ennuies vite.
Et pour ne pas s'ennuyer, le bois, c'est aussi l'occasion de revoir la famille pour Cyprien et ses 3 enfants qui tapent dans le ballon avec leur cousin.
Mais du coup, avec le confinement, ils ne les ont pas vus. Donc là, ils en profitent. Ma mère et mon père qui sont là et qui voient un petit peu la petite dernière. Mais sinon, ouais, on se voit exclusivement en extérieur.
Retrouvailles au grand air donc, et masquées pour éviter de se contaminer.
Et pour ceux qui préfèrent la montagne, s'ils sont à moins de 100 km, le téléphérique du Mont-Blanc a rouvert ce matin. Pour les balades et les séjours à l'étranger, en revanche, il faudra patienter encore un peu, mais on peut se faire rembourser les vols annulés d'Air France. La compagnie française, rassurée en partie par la levée progressive des restrictions, a répondu favorablement aux associations de consommateurs qui lui rappelaient ses obligations en la matière, à Air France et aussi à 57 autres compagnies obligées par une réglementation européenne de proposer le remboursement des billets, ce qui sera donc possible, Delphine Simon, mais à condition d'être patient.
Se faire rembourser son billet d'avion annulé chez Air France KLM, ce sera possible, mais uniquement pour ceux annulés depuis le 15 mai. Et ça va prendre du temps, prévient la compagnie, vu le nombre d'annulations. Deuxième cas de figure, votre billet a été annulé entre le 15 mars et le 15 mai. Votre bon d'achat sera remboursable au bout de 12 mois. Et si vous conservez cet avoir, il y aura dans ce cas une bonification de 15%. Jusqu'ici, Air France ne laissait pas le choix à ses clients. Elle imposait ses bon d'achat, or c'est illégal. La Commission européenne vient de le rappeler très fermement à une quinzaine d'États, dont la France. Paris réclamait une modification de ce règlement. Un changement de ton salué par Alain Bazot, le président de l'UFC, Que choisir, mais c'est loin d'être suffisant.
Pourquoi les clients avant le 15 mai ne bénéficieraient-ils pas, eux aussi, du droit au remboursement tel que la législation le prévoit ? Autrement dit, Air France, on a l'impression que c'est de façon très discrétionnaire, qu'il applique ou qu'il n'applique pas le règlement. Il fait une scission entre les catégories de clients. Bref, la confiance, c'est pas comme ça qu'on va la rétablir auprès des clients. Ils sont très nombreux à témoigner auprès de nous que Air France, eh bien, ils sont pas prêts de les revoir.
À ce stade, seul EasyJet, sur les 57 compagnies aériennes mises en demeure par l'UFC Que choisir, est rentré dans les clous.
Et pour Air France, c'est une question de vie ou de mort, comme l'a souligné ce matin Alexandre de Juniac, président de l'Association internationale du transport aérien. Il était l'invité d'On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
La situation financière des compagnies est tellement grave que le remboursement immédiat des billets qui n'avaient pas pu être honorés aurait plongé les compagnies encore plus dans la difficulté et probablement dans la faillite.
Maintenant que la Commission a rappelé que la loi, c'est la loi, est-ce qu'il faut s'y conformer si les passagers demandent tout de suite le remboursement ?
Alors, de toute façon, les compagnies aériennes n'ont pas l'habitude de ne pas se conformer avec la loi. Donc, on va se conformer avec la loi. Et nous allons expliquer, continuer à expliquer aux passagers que c'est vrai que nous demandons leur aide. On leur demande à genoux. Voilà, parce qu'on en est là, figurez-vous. Et que c'est pas l'intérêt non plus des passagers que les compagnies disparaissent. Qu'ils ne puissent plus voler ou qu'ils puissent voler à des conditions qui soient économiquement inatteignables.
Alexandre de Juniac avec Alexandra Ben Saïd. Ce matin, l'Italie annonce qu'elle rouvre ses frontières le 3 juin. Pour le gouvernement italien, il s'agit de sauver la saison d'été. Ce que comprend parfaitement le secrétaire d'État au tourisme français, Jean-Baptiste Lemoyne, qui ne veut pas se prononcer pour l'instant. Il l'a dit également sur France Inter. On est encore dans le temps de la lutte contre l'épidémie et le virus ne prend pas de vacances. Les ministres du tourisme de l'Union doivent se concerter mardi sur cette question des frontières, notamment question qui brouille aussi les relations avec avec l'Espagne. L'Espagne qui vient de mettre en place une quarantaine systématique des étrangers entrant sur le territoire. L'événement qui sera suivi avec intérêt ou envie aujourd'hui dans le monde entier par les amateurs de foot, c'est cet après-midi la reprise de la Bundesliga, championnat allemand de football, le premier à redémarrer depuis 2 mois. Les enjeux sont énormes, sportifs, politiques et financiers. Jean-Pierre Blimeau, les matchs vont se jouer dans des stades vides, entourés bien sûr de mesures de sécurité draconiennes.
Oui, les documents officiels s'étalent sur 51 pages. La jauge minimale pour la tenue d'un match de Bundesliga à huis clos côté spectateur, c'est tout de même 300 personnes aux alentours. Alors à Dortmund, elles seront 322 exactement. Des joueurs en passant par les staffs, le service médical, les dirigeants, la sécurité, les ramasseurs de balles, journalistes de télévision et de presse écrite en nombre limité, techniciens pour la diffusion, personnel d'hygiène. Tout le monde porte un masque, sauf les joueurs en train de disputer la rencontre. Le masque est aussi de rigueur sur le banc. Les consignes, ce sont évidemment de respecter les distances. Les ballons seront désinfectés dans les coulisses. C'est un peu Fort Knox. Les horaires et les timings sont très précis. Les équipes arrivent avec plusieurs bus. Les titulaires doivent se changer avant les remplaçants et on est prié d'aller prendre sa douche à la maison ou à l'hôtel.
Les enjeux sont énormes pour le football allemand. Il y a 300 millions d'euros de droits télé à récupérer et tous les autres vont regarder cette expérience de façon très attentive.
Oui, car la Bundesliga en Allemagne, ce sera un peu le laboratoire des prochaines semaines. En Italie, par exemple, on va regarder tout cela avec attention. L'Italie, où des discussions se poursuivent autour d'un protocole jugé trop contraignant. En Angleterre, où le maire de Londres s'est opposé à une reprise précipitée. En Espagne, où là encore se pose la question des éventuelles quarantaines. Au Portugal, où on a proclamé la reprise dès le 4 juin, où les entraînements se déroulent déjà sous des contraintes importantes. Tout le monde a prévu, en tout cas, mis à part la France, les Pays-Bas et la Belgique, de reprendre à la mi-juin.
Jean-Pierre Blimeau, une reprise qui ne fait pas l'unanimité dans la classe politique et l'opinion qui la désapprouve à 56% des personnes interrogées. Dans un instant, le rendez-vous du livre inter, mais d'abord, si je dis coupe au bol, à qui va-t-on aussitôt penser? Aux Beatles, bien sûr. Elle était, dit-on, à l'origine du look adopté par John, Paul, George et ensuite Ringo. La photographe allemande Astrid Kircher est morte à Hambourg, elle avait 81 ans. C'est au début des années 60 qu'elle avait rencontré le groupe de Liverpool, avant qu'il n'accède à la célébrité internationale. Isabelle Pasquier.
Astrid Kircher a 22 ans quand elle découvre les Beatles, ce qui donne un petit concert au Kaiserkeller, un club de Hambourg où le groupe va se produire 56 fois. Et elle y fera les premières photos de la légende des Beatles. À l'époque, un petit groupe très confidentiel, d'anglais tout palichons, qui font leurs armes dans cette ville du nord de l'Allemagne. À l'époque, les Beatles, c'est John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Peter Best et Stuart Sutcliffe, le bassiste du groupe dont elle tombe amoureuse. Et les photos sont incroyables. Les Beatles en blouson de cuir grimpés sur le capot d'un vieux camion militaire et des portraits de Lennon et McCartney en ados romantiques. Astrid Kircher va également contribuer au look du groupe puisqu'elle aurait testé la coupe au bol sur son boyfriend, Stuart Sutcliffe, et ça aurait tellement plu aux autres qu'ils auraient tous décidé d'adopter cette coupe qui fait partie de leur mythologie.
Eh oui, que Dieu bénisse. Astrid Kircher a sobrement tweeté ce matin. Ringo Starr, le rendez-vous de ce samedi 13h jusqu'à la fin du mois. Rencontre avec l'un des auteurs en lice au prix du livre inter. Avec vous, Eva Bétan, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Constance Debray pour Love Me Tender, qui n'est pas un titre des Beatles, un livre paru chez Flammarion, de la difficulté d'être femme et d'être mère, de la difficulté d'aimer, tout simplement.
Oui, nous sommes avec elle, la narratrice, celle qui vit, celle qui parle, celle qui part et qui est partie. Et on se dit que la liberté, sa liberté radicale, s'est payée cher. Constance, elle s'appelle ainsi, est séparée de son mari, elle lui apprend que maintenant, elle aime les filles. Si elle était restée avocate, si elle était restée une bourgeoise, peut-être que ça se serait bien passé. Mais la liberté de Constance passe par l'allègement, le dépouillement, renoncer au métier, à l'argent, à l'appartement, aux positions. Alors ça se paye cash et cher, ça se paye d'un fils, un fils que le père du garçon lui interdit de voir et la justice y mêle, lui octroie un minuscule droit de visite. Constance, l'héroïne, n'est pas le genre mélo, le genre mon fils, ma bataille, mais elle mène bataille. C'est pas une mère, ça. Il n'y a pas besoin de trémolo. Le sujet central, pour moi, de ce livre, c'est le livre d'amour d'une femme pour son enfant. On va en parler un petit peu plus tard, Constance Debray, mais je voudrais déjà comprendre qu'est-ce qu'il y a de si provoquant pour la société. On est dans une société qui a évolué, il y a le mariage pour tous. Qu'est-ce que cette femme touche comme point sensible dans la société pour que ça ait l'air d'être quasiment un scandale ?
Oh, ça n'est pas mon, à moi de le dire, et ça n'est pas le, je crois, ce que je, ça c'est à chacun de le deviner peut-être dans le livre. Ce qui m'intéresse et ce que j'ai essayé d'explorer, c'est plutôt comment on fait avec le réel quand il s'oppose à vous. Et c'est quelque chose, je crois, qu'on vit tous. C'est aussi la question tout simplement du destin, hein, de l'événement et du conflit. Et c'est pour ça que j'ai mis une citation d'une tragédie d'Eschyle en exergue. Voilà.
Mais cette femme, il y a eu le mariage pour tous, le monde a évolué. Être mère et homosexuelle, nous le voyons autour de nous. La justice va s'en mêler, elle va être traitée d'une manière terrible, le réel, comme vous dites. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que il y a une transgression quand même qui est accomplie?
Sans doute, il n'est pas inintéressant de voir que finalement, dès lors qu'une question sexuelle est en jeu, et aussi libre qu'on croit l'être, aujourd'hui, on touche finalement à des peurs très très fondamentales et très ancrées dans la société, certainement. Mais je crois que le fait de se placer ailleurs, de changer un petit peu, déboussole tout le monde et la société. Toujours.
Votre héroïne va se retrouver dans une situation qui n'est pas celle d'habitude de son milieu, avec la justice qui se mêle. Elle a le droit de voir son enfant une heure et demie dans un lieu spécial. Et elle découvre aussi ce que c'est qu'on peut attendre un an avant qu'une décision de justice soit accomplie.
Oui, ça, je crois qu'indépendamment de la question de l'homosexualité, qui est finalement assez anecdotique, je crois, c'est quelque chose de très banal dans la vie de chacun, de connaître les difficultés d'une séparation, et en particulier quand on a des enfants. Voilà. Et par ailleurs, du point de vue des enfants, c'est la vieille et l'ancienne immémoriale question de la fidélité, de la double fidélité au père et à la mère. Donc c'est quelque chose de très ancien et qui prend des formes extrêmement contemporaines, et j'ai voulu l'incarner de façon très personnelle et très dans notre époque avec les questions que vous venez d'évoquer, mais c'est une situation qui rejoint encore une fois des choses très anciennes, je crois.
C'est un livre c'est un amour de cette femme pour son enfant. Elle va attendre, elle va se contenter de miettes, elle va se battre. La question, c'est comment on ne devient pas fou? Vous dites effectivement, il y a quelque chose de la tragédie. Comment on survit quand ça dure des années?
Mais ça, c'est toujours, ça, c'est encore une fois, je crois qu'on ne le sait pas, et on pense souvent qu'on ne pourrait pas supporter telle ou telle situation. Et on ne sait pas si on sera à la hauteur de telle ou telle situation. Et en réalité, on l'est toujours, je crois. Et oui, ça c'est la grande faculté d'adaptation du réel. Nietzsche disait « amor fati », ce qui veut dire « aime ton destin ». Et c'est aussi « il faut aimer ce qui nous arrive et y trouver son compte ». Si on peut, il y a deux solutions. Soit on change le réel. Voilà. Bon, alors bien sûr, dans ce cas-là, on essaye, il y a une procédure, on essaye de récupérer une relation normale avec un enfant, etc. Bon. Mais si les choses ne marchent pas, le réel, malheureusement, est pas toujours, ne répond pas toujours à nos demandes. Ça, je crois que j'apprends rien à personne. Eh ben, il faut s'adapter. Et, ouais. Et c'est là que la question de la liberté est intéressante.
Merci. Merci beaucoup, Constance Debré. La dernière phrase du livre, finalement, c'est un message d'espoir. Je trouve ça bien, quelqu'un qui m'aime, écrivez-vous, j'y réfléchis. Il n'y a pas 36 solutions. Merci beaucoup, Constance Debré. Love Me Tender, en lice pour le prix du livre Inter, paru chez Flammarion. Merci à vous, Eva Bétan également. Le temps.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus, sur fondationdefrance.org.
Jean-Michel Golinski.
Un temps calme et largement ensoleillé sur les deux tiers nord du pays, plus précisément au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon, avec quelques débordements nuageux par intermittence, en provenance d'Angleterre, principalement le long de la Manche, mais sans conséquence. Sur les régions méridionales, l'ambiance est plus instable. Les averses et les quelques coups de tonnerre qui ont abordé ce matin le pied des Pyrénées et le golfe du Lion vont s'étendre en journée vers le Massif central, les Alpes et la Corse, dans des températures voisines de 17 degrés près de la Manche, 19 à 22 en général du nord au sud, avec des pointes à 26 possibles sur la Corse du sud. Demain, le temps instable va concerner un petit quart sud-est, des Alpes au golfe du Lion. Partout ailleurs, soleil et ciel bleu vont s'imposer, dans des températures maximales un peu plus élevées qu'aujourd'hui, mais avec possiblement des gelées blanches en fin de nuit dans le nord-est.